Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
On n'est pas le département des plaintes, mais si quand même vous en avez, ne vous gênez jamais, mes très chers amis, pour nous écrire. Je veux le dire en début d'émission, parce que...
Pourquoi?
Les gens sont pas plaignards.
Non!
Ça doit être parce qu'on fait une bonne job.
Soit ça, ou simplement qu'ils sont juste pas plaignards.
Ça se peut. C'est ça. Ils écoutent, ils nous tolèrent, ils nous endurent, ben, puis ils disent, quand bien même que j'aurais de quoi leur dire.
Ils ont quand même l'air du bon monde, tu sais.
Mais ceci étant dit, bienvenue à l'émission Peut contenir des infos, d'une part.
Bonjour!
Et si ça vous tente de nous écrire, je vais le dire dès le début de l'émission, là.
OK.
Pour pas que ça se perde dans une comment je dirais ça, un océan, une mer
d'informations. Oui.
Alors, écrivez-nous à pcdi@radiorfa.com.
C'est bon.
Alors, pcdi@radiorfa.com, si vous avez des choses à nous dire. Si c'est pas trop...
Pas mal fier de toi.
Si c'est pas trop destructeur.
Oui, c'est ça. Ouais, si vous avez envie de vous vider le cœur, nah.
Vous pouvez faire ça dans la maison chez vous, hein?
Oui, c'est ça. Il y a peut-être d'autres plateformes.
Il y a des affaires faciles là, pour se débarrasser de quelqu'un qui est à la radio. Tu sais, genre, tu tournes le pas. Oui, des affaires comme ça. Vous dites pas de le faire,
non,
là, mais...
Alors, faites-le pas, là.
Pas ça, là, mais...
Alors, parce qu'on a toute une émission pour vous aujourd'hui.
Tu verrais, encore une fois?
Bien sûr, mon cher ami.
OK, c'est quoi les sujets aujourd'hui? Je veux juste que les gens comprennent que je fais tout le temps semblant que je suis au courant de rien. Oui. Mais je boucle pas mal les
ans. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va recevoir M. James Gennaro.
OK.
Vous allez voir, c'est hyper, hyper intéressant ce qu'il a à nous dire. Il est directeur des politiques et relations gouvernementales au Centre canadien d'excellence pour les aidants.
Oh, OK, les aidants.
Ceux qui aident.
Ah oh oui, les proches aidants, oui, absolument.
Ben voilà, t'as tout compris, mon cher. Bravo.
Voilà, les personnes qui s'occupent d'un parent qui est vieillissant, d'un enfant, par exemple, qui est handicapé.
Ben oui.
Il y en a quand même pas mal au pays. Vous allez rester surpris, j'ai l'impression, de la quantité qu'on trouve d'aidants à travers le pays.
Et l'État surprenant. Aussi, l'État où se trouvent nos aidants.
Oui, c'est ça, hein?
Oui, on lève des petits drapeaux aujourd'hui. Également, on va vous parler de la campagne annuelle de la Fondation de Postes, la Fondation communautaire.
Oui.
De Postes Canada. Madame Valérie Chartrand sera avec nous pour nous parler de cette campagne annuelle.
Je me demande comment, tu sais, Postes Canada, je me demande bien comment ils vont faire pour récolter des fonds pour une fondation communautaire. L'impression qu'il va y avoir quelque chose de relié un peu à leur champ d'activité.
Ben, d'après moi, oui, il doit y avoir un lien quelque part.
Peut-être. OK. Parler de ça tantôt sur le retour de la pause de la demi-heure.
Effectivement. Toi, lorsque tu vas au restaurant, là,
ça arrive de moins en moins, je dois l'admettre.
Oui, moi aussi, là.
N'en déplaise aux restaurateurs, pas ça que je t'en ai dit.
Excuse aux restaurateurs. Mais effectivement, moi aussi, j'y vois pas mal moins. Mais quand je vais au restaurant...
Oui, ça m'arrive.
Et qu'il y a des gens qui passent le repas complet à regarder leur téléphone.
Non.
Tu sais, puis ils sont en couple.
Oh my...
Ça moi, j'ai un peu de misère avec ça. Mais, tu sais, beaucoup de gens vont consulter quand même leur fil de nouvelles, puis leur courriel, puis tout ça.
Prendre des photos de l'assiette pour mettre ça dans les réseaux sociaux.
Pendant le repas, oui, bien, effectivement. Ben, il y a un établissement italien, le restaurant Al Condominio, qui est installé à Vérone, en Italie, qui a décidé, c'est assez.
OK.
C'est assez. Et ils ont trouvé une belle façon très originale d'inciter les gens à ne pas consulter leur téléphone. C'est bien simple. Le patron a décidé d'offrir une bouteille de vin aux clients qui acceptent de laisser leur téléphone de côté tout le temps du repas.
Une bouteille de vin?
Une bouteille de vin. Quinte-toi.
OK, wow.
Tu vas lâcher ton téléphone, puis je vais te servir un bon verre de vin.
Ah! Ah, ouais, il va jusque-là.
Et ça marche.
Et ça fonctionne.
Il dit que à peu près 90 % des clients ont accepté de relever le challenge de passer un repas sans consulter ses courriels et ses fils de nouvelles.
Ah, je suis quand même surpris. Parce que, je vais te le dire, là, je vais de moins en moins souvent, ou moins souvent que je le faisais au restaurant, là, j'en conviens. Mais quand j'y vais, par exemple, là, ah, c'est une plaie d'Égypte. Non, pas de farce, là.
Ben oui.
De voir les gens alentour de soi avec le nez rivé dans le téléphone cellulaire.
Oui.
Puis, tu sais, si encore, t'es avec, je sais pas, moi, tu sais, c'est quelqu'un qui te plaît pas tellement ou quoi que ce soit du genre, là, tu sais.
C'est quelqu'un qui est pogné pour aller.
Ah, ouais, c'est ça. T'es obligé d'aller, manger avec, je sais pas, moi, ton frère, ça fait des années que t'as pas vu, puis que, tu sais, ça faisait. Si t'as pas été manger au resto avec lui depuis des années, c'est peut-être pour une raison, là.
Ouais, c'est ça.
Mais quand c'est ta femme, mettons, là, t'es pas capable de trouver trois, quatre sujets de conversation, jaser à propos de l'école du petit dernier, puis mettre les optés.
Moi aussi, j'ai énormément de difficultés avec ça. C'est d'aller dans un restaurant, regarde, prends ton téléphone, mets dans ta poche en arrière. Là.
Ouais. Je ne veux pas poser de jugement, mais en même temps, force est d'admettre que quand tu vois des gens qui sont au volant de leur voiture avec le téléphone cellulaire...
Ça marche plus, là. Ça marche plus.
Là, tu dis, c'est tout à fait normal qu'ils transposent en certaine mesure de tels comportements dans d'autres activités, comme d'aller manger au restaurant.
C'est ça. Je peux comprendre un dîner d'affaires. Tu sais, des gens d'affaires qui se retrouvent au restaurant. OK, oui, ça, je peux comprendre. Oh, oui, je veux dire, t'as des courriels, des affaires comme ça. Des fois, il faut que tu répondes rapidement. Puis t'es, OK, ça, je peux comprendre. Mais le soir, les fins de semaine, prenez un break un peu, là. Ça va vous faire du bien.
Et ça complète?
Oui.
Moi, je vais rester du côté de l'Europe, mais on va partir de l'Italie. On va monter un petit peu, même beaucoup plus au nord. On va se transporter jusqu'en Finlande.
Oh, en Finlande,
En Scandinavie, il y a un hacker, donc un pirate informatique finlandais qui a fait récemment exploser littéralement le taux de criminalité du pays à lui seul. Rien de moins. C'est un Finlandais qui a été condamné récemment. Tu sais que la Finlande et les pays scandinaves, de façon générale, dans le palmarès des pays les plus heureux de la planète...
Oui.
Pas mal eux autres qui sont au top.
C'est ça, oui.
Taux de criminalité...
Après année, ils sont toujours là.
Taux de criminalité exceptionnellement bas.
Mm-hmm.
Le monde est de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Ils ont peut-être quelque chose dans l'eau, je sais pas, en tout cas.
Peut-être.
Mais, alors, ce Finlandais-là a été condamné récemment à une peine d'emprisonnement de 6 ans et 3 mois pour avoir piraté les dossiers de dizaines de milliers de patients d'une clinique de la capitale, donc Helsinki.
Uh-huh.
Le type s'appelle Alexanteri Julius Kivimaki. Je pensais pas m'en farger, mais...
Ton accent est vraiment bon.
Ton accident, ouais, ça sonnait comme un accident. Alexandre Julius... Excusez, monsieur, quoique il s'en va en tôle.
C'est pas grave.
Il s'est enfui en France après son coup. T'sais, il était pas fou non plus. Il ne pas rester dans la place. Alors, sa cavale aura duré 6 ans. Hein, 6 ans que ça a pris avant de le retrouver. Mais il a été arrêté... à l'hiver 2023, donc l'an dernier en France, et il a été extradé entre-temps en Finlande au mois de février dernier, en 2024, et on l'a jugé, ça vient tout juste de se passer au mois de mars dernier, donc il y a quelques semaines, et à la suite, l'affaire, c'est qu'il s'était pas contenté de voler les données, c'est qu'il avait essayé de soutirer une rançon, comprends-tu?
Ah, bien,
qu'est-ce que tu veux faire avec des données si tu t'en sers pas pour faire du chantage?
Pour t'y vendre,
c'est ça. Alors, il avait réclamé le paiement de 40 Bitcoin, mais ils n'étaient pas rendus au prix où ils sont rendus.
Okay.
Alors, à l'époque, c'était l'équivalent d'environ 450 000 euros à cette époque-là.
Aujourd'hui,
un Bitcoin, c'est quand même plus que ça. Je pense que c'est 84 000 piastres ou je ne sais pas trop. Et là, il menaçait, évidemment, s'il n'était pas payé, il menaçait de publier les dossiers. Il a tout fait. Il a volé les données, il a menacé de rendre ça public, il a demandé... Tu sais, le gros outfit. Alors, les conséquences sont telles que le pirate informatique a fait carrément explosé le taux de criminalité du pays à lui seul en raison du nombre record de plaintes enregistrées. Parce qu'écoutez ça, il a été accusé de plusieurs crimes, évidemment, liés à ces attaques-là, oui. ou à cette attaque, devrais-je dire. Alors, notamment 9600 cas de violations aggravées de la vie privée en lien avec la diffusion d'informations privées, 21300 tentatives d'extorsion aggravées et 20 cas de chantage aggravé. Ajoutez tous ces dossiers-là les uns à la suite des autres. En plus de ça, après le dépôt des accusations, il y a une vingtaine de milliers de personnes qui ont déposé des plaintes, évidemment, relatives à ça, des plaintes pénales, évidemment. Mm-hmm. Tu vas pas au civil, là, tu vas au criminel carrément, à la police. Et c'est devenu la plus grande affaire criminelle de toute l'histoire de la Finlande. Quand j'ai dit qu'il a fait exploser, là, juste son cas, là, ça a fait carrément doubler le taux de criminalité en Finlande.
Hey, doublé pour un.
Pour un gars. Un avec gars. Cette pluie d'accusations qui s'est abattue sur le pirate informatique. Cyberattaque qui est devenu, je l'ai dit, l'un des plus gros cas judiciarisés de toute l'histoire de la Finlande. Et la cerise sur le gâteau, parce que c'est passé.
Il y a une cerise qui va se sonder en plus.
En plus. Il y a le gros kit, il y a le crémage, mets les petits confettis là, en bonbons et tout ça, puis rajoute une cerise sur le top. Okay. Alors, le criminel ira non seulement, comme je l'ai dit, croupir en prison pour combien de temps, j'ai dit tantôt? Pour
6 ans.
6 ans et 3 mois, mais en plus de ça, il pèse contre lui actuellement 5000 demandes d'indemnisation au civil à ce jour par des gens qui ont été victimes de ce vol d'informations qui l'ont accusé ou qui l'ont poursuivi au civil.
Ouch!
OK. Fait que la clinique et en plus, la clinique va devoir, quant à elle, s'exposer elle va devoir verser une amende de 608 000 euros pour violation des dispositions sur la protection des données parce qu'on s'est aperçu que les données sensibles qu'elle stockait n'étaient tout simplement pas chiffrées ni anonymisées. Donc, dans l'art de
nos jours.
De nos jours. Alors, dans l'art de faire la totale, là, gars, il a fait la totale.
Il l'a fait, lui.
Il a fait son hacking, il a fait son piratage, il a volé les données, il a menacé le monde de divulguer ça, s'est fait attraper. Il va croupir en prison pour les 6 prochaines années. Et en plus de ça, il va peut-être devoir payer ou indemniser ces gens-là parce qu'il est poursuivi au civil.
Mais tu sais, quand on parle de vol de données puis tout ça, là, c'est tellement rendu commun.
C'est rendu commun.
C'est vrai, on en entend tellement parler. Il y a tellement d'endroits où ils se sont fait voler les données.
Dans nos applications pour des rencontres, les services bancaires, vos services de streaming en ligne, il y en a qui volent vos données pour pouvoir avoir des comptes qui revendent et tout ça.
Exactement.
Il ne faut pas s'étonner qu'à quelque part, les dossiers comme celui-là surviennent. Dans un instant, on parle des proches aidants. Nous allons faire, le bilan de l'état de santé mentale et comment ils se portent, ces gens-là, qui prêtent assistance à des proches près d'eux.
Restez en contact avec Le Contenir des infos.
Le Contenir des infos.
Écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
Le Contenir des infos.
On sait que la population au Canada et de façon générale à travers le monde aussi, elle est de plus en plus vieillissante. L'accès aux soins médicaux ne semble pas non plus vouloir s'améliorer. Il y a peut-être des endroits à travers le pays où ça va mieux qu'à d'autres places, mais de façon générale, on ne peut pas dire que c'est extraordinaire non plus, là. Et ce faisant, il y a de plus en plus de personnes à travers le Canada qui doivent prendre soin de leurs parents qui vieillissent, par exemple, ou encore d'un enfant avec des besoins particuliers.
Simon, il y a une étude qui s'est penchée justement là-dessus récemment, être aidant au Canada. On s'est penché sur l'état de la situation des personnes qui fournissent de l'aide au jour le jour à des gens qui sont proches d'eux au Canada, des aidants, comme on les appelle couramment.
Alors voilà, quels défis rencontrent ces gens-là, donc les aidants? Comment on pourrait mieux les aider eux, aider les aidants notamment, c'est bien dit. On discute avec M. James Janeiro, il est directeur des politiques et des relations gouvernementales au Centre canadien d'excellence pour les aidants. M. Janeiro est avec nous, bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir.
Monsieur Janeiro, parlez-nous de cette étude dont on a parlé il y a quelques instants, Être aidant au Canada, qui a été dévoilée le tout récemment. Pourquoi une telle étude et qu'est-ce qu'on souhaitait apprendre au juste avec ça?
Alors, la raison pour faire cette étude, c'était un sondage qu'on a commencé l'année passée, pendant l'été, un sondage national avec la représentation de partout le pays, de côte à côte à côte, pour mieux apprendre la situation même des proches aidants, aussi des fournisseurs de soins, partout au pays. Nous savons qu'il y avait des nuances régionaux et des nuances provinciales, territoriales. Et ce qu'on ne savait pas, c'était exactement comment marchent les proches aidants et les fournisseurs de soins, même aujourd'hui, pas aujourd'hui, l'année passée, dans l'été, et sont quoi les enjeux et leurs priorités pour la politique publique pour vendre mieux leur situation comme proches aidants et fournisseurs de soins. Alors, on a complété ce sondage en l'automne de l'année passée, en 2023. On a passé de l'hiver à étudier les résultats, préparer le rapport, et maintenant nous sommes prêts à parler avec vous et le reste du pays et du monde à propos de notre rapport Être aidant au Canada.
Auprès de qui cette enquête-là a été menée et vous l'avez menée de quelle façon?
Oui, on a partagé avec Leger Communications, c'est une entreprise très fameuse, partout au pays, à faire des sondages, des études politiques, des choses comme ça. L'enquête a été administrée en deux manières. La première par la baie du panel de Canadiens de Leger, et la seconde par la baie d'un lien ouvert que nous avons partagé partout au pays et dans nos communautés. L'enquête par panel a permis à recueillir des informations d'à peu près 2100 personnes participants. Okay. Et de l'autre côté, de lien ouvert, c'était à peu près 1000 personnes qui ont complété le sondage.
Monsieur Genaïro, parlez-nous un petit peu de ce Centre canadien d'excellence pour les aidants. C'est l'organisme là, qui a commandé cette étude et pour lequel vous êtes le directeur des politiques et des relations gouvernementales. Qu'est-ce qui fait cet organisme-là, au juste?
Oui, nous sommes un centre nouveau. On a déjà venu de passer notre deuxième anniversaire il y a quelques jours. Nous sommes un centre de politique publique, un centre de recherche, un centre de prévenir des fonds aux projets de recherche partout le pays. Et notre vision, c'est de devenir le Canada le place meilleur partout au monde à prendre soin ou de recevoir soin comme une personne avec les besoins.
Monsieur Genaïro, quand on parle d'aidants, on parle de qui exactement? Qui sont ces gens qui aident tellement et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils accomplissent?
Oui, c'est même aujourd'hui, c'est une personne sur quatre partout au pays. En quelques années, ça serait une moitié de la population canadienne serait un proche aidant. Ça veut dire quelques personnes qui prennent soin d'une autre. Ça peut être une mère qui prend soin d'une fille handicapée, ou même dans ma situation, je suis un grand-fils avec ma grand-mère, elle a besoin d'aide. Et je passe du temps avec elle, je prépare leurs questions de taxes, leurs questions de réparation de la maison, des choses comme ça. Je prends soin de diverses sortes d'enjeux qu'elle a et qu'elle ne peut pas faire eux-mêmes. Et c'est tout le monde, vraiment. C'est une personne sur quatre aujourd'hui qui prend soin d'un enfant handicapé, une parent qui est en train d'agir, peut-être une sœur avec une condition mentale, ou même un cousin avec un handicap pendant toute sa vie. Alors, cet spectrum des gens qui prennent soin des autres, c'est très vaste. Et notre centre, notre sondage couvre tout type de questions-là.
Parce que quand on pense aidant, on pense souvent au niveau de la santé, mais c'est bien plus large que ça, là, un aidant.
Oui, c'est clairement, c'est la santé. C'est les conditions médicales comme le cancer, la dementia, Alzheimer's, des choses comme ça. Mais aussi les gens handicapés qui ont besoin d'aide, les enfants handicapés qui ont besoin d'aide et en même temps des gens avec des conditions de santé mentale ou de l'addiction aussi. Avoir besoin de soins, ça fait partie de la condition humaine. C'est ce type de trucs-là qui nous font humains. Alors, c'est pas un problème qu'on en a besoin de soins. Le problème, c'est quand nos politiques publiques ne sont pas prêtes à prendre soin des gens qui ont besoin d'aide.
C'est ça, et ça se résume pas, comme le sous-entendait mon collègue, justement, à soit changer des couches, par exemple, ou des choses comme celle-là. Être aidant, c'est quasiment au jour le jour, c'est d'aller faire des commissions, c'est de faire, comme vous le faites pour votre grand-mère, par exemple, des réparations. Ça va bien au-delà de simplement la condition médicale, à proprement parler, là, c'est ce qu'on peut dire.
Oui. Oui, c'est plus grand que la médicale, exactement.
C'est ça. Quelles sont les conclusions, M. Janeiro, les plus, disons, frappantes là, qu'on peut tirer à la lecture de cette étude-là? Si on rentre dans le cœur de l'étude, qu'est-ce qu'on a noté?
Nous savons déjà, avant le sondage, que la situation des proches aidants et des fournisseurs de soins n'était pas bien. À partout au Canada, on a déjà vu des numéros et des études, aussi que les histoires, des témoins. Qu'on écoute toujours des proches aidants et des fournisseurs de soins de côte à côte à côte au Canada. Mais avec notre sondage, on a besoin des chiffres pour mieux comprendre ces situations-là. Comme par exemple, on sait que le bien-être des aidants est mis à rude épreuve dans notre sondage. On est dans ce cadre affirme que sa santé mentale est passable ou mauvaise. Les gens se sont fatigués, peut-être à peu près une moitié des proches aidants se sont même fatigués, inquiets ou anxieux ou débordés des raisons de leur responsabilité des aidants. Aussi, on sait que les aidants effectuent une carte de travail supplémentaire. Ils travaillent à peu près 30 heures de soins en même temps que travailler un emploi à plein temps. C'est presque un autre emploi en addition à leur emploi où ils gagnent de l'argent. Aussi, nombreux aidants sont âgés de plus de 65 ans et peuvent également avoir besoin de soins. Près d'un aidant sur cinq, même aujourd'hui, en 2024, est âgé de plus de 65 ans. Et on sait que quand on est très chanceux, presque à ce point de 65 ans, peut-être on prend la retraite du travail, mais qu'on arrive à ce point-là, peut-être notre santé change, nos besoins changent, on a besoin de plus d'aide. Et avec ce chiffre-là, on a compris que beaucoup de gens qui prennent soin des autres, dans quelques années, peut-être vont avoir besoin de soins eux-mêmes. Et c'est ça une crise aujourd'hui qui va devenir une crise meilleure dans les années qui en avance. Une chiffre en addition, être aidant, on sait clairement, c'est une source de stress financier pendant un temps de crise à coût de vie. La moitié des aidants ont subi un stress financier au cours de la dernière année en raison de leur responsabilité d'aidant. Un aidant sur cinq, à peu près, a soutenu financement la personne dont ils s'occupaient. Et le même nombre d'entre eux ont également déclaré d'avoir dépensé au moins de 1 000 $ par mois de leur propre poche.
Ouf.
Alors, c'est une crise. Aujourd'hui, c'est une crise et cette crise deviendra pire si on fait rien.
C'est une étude qui est tellement intéressante et les résultats, les conclusions sont tellement intéressants. Mais vous voulez qu'elle serve à quoi exactement cette étude-là?
Le changement des politiques publiques. Comme j'ai dit, c'est une crise aujourd'hui qui deviendra une crise pire dans quelques années, mais on a du temps pour améliorer nos conditions politiques et améliorer nos conditions de politique publique. On a des idées, il y a des idées de partout au monde, de l'Angleterre, des États-Unis, même aux États-Unis, aussi en Australie, partout en Europe. Ils prennent soin de ceux qui prennent soin mieux que nous le font ici au Canada. Et je dois dire que même dans notre pays, le Québec, c'est à peu près une génération en avant le reste du pays. Alors même au Québec, les chiffres ne sont pas bien, mais ils sont meilleurs que le reste du pays parce que les politiques publiques au Québec, pour prendre soin de ceux qui prennent soin des autres, sont plus avancées. Alors, il faut qu'on apprenne du reste du monde, même dans notre fédération du Québec et des autres parties du pays, pour améliorer la condition pour tous les proches aidants et les fournisseurs de soins, à partout du pays.
Monsieur Janeiro, on arrive en conclusion de cette entrevue qui est vraiment, ma foi, très instructive, hein, très intéressante sur le sort de ces gens-là qui aident des proches autour d'eux. Il y a beaucoup de milliers d'auditeurs là, qui écoutent l'émission « Peut contenir des infos ». Je vous promets pas que le premier ministre du Canada écoute l'émission, mais il y a peut-être, je sais pas moi, des députés, des ministres qui sont à l'écoute de cette émission-là. Si vous aviez des décideurs là, devant vous actuellement qui, auxquels vous pouviez vous adresser, qu'est-ce que vous leur diriez à propos des aidants et leurs besoins là, pour conclure?
Alors, je me trouve en Ottawa aujourd'hui pour les réunions. Alors, si le premier ministre est en train d'écouter la rélémission, téléphonez-moi, je suis très proche de vous. Mais la question la plus simple, c'est qu'on a une crise, mais on a du temps pour améliorer la crise. Alors, il faut attendre les histoires, les chiffres qui comptent ces histoires des proches aidants et améliorer notre pays pour que le Canada devienne la place meilleure au monde pour prendre soin des autres.
Parce que quand on y pense, on est tous aidants, là, d'une façon ou d'une autre.
Ah, d'une façon ou d'une
exactement.
Autre. Ben oui. Exactement. Alors, très intéressant, franchement, une étude qui a pour titre « Être aidant au Canada ». Il est, on l'a dit, le directeur des politiques et des relations gouvernementales au Centre canadien d'excellence pour les aidants. Monsieur James Janeiro, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps.
Merci bien, vous deux.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
Il existe une fondation que plusieurs d'entre vous, j'en suis convaincu, ne connaissent sans doute pas, mais qui rend quand même de grands services aux communautés un peu partout à travers le pays et qui vient de lancer une campagne annuelle de financement qui est assez peu commune ou, en tout cas, disons qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations qui ont la chance de réaliser une campagne comme celle-là.
Simon, il s'agit de la Fondation communautaire de Poste Canada.
OK.
Qui vient de lancer un timbre philanthropique. C'est une campagne annuelle de financement qui sert à recueillir des fonds qui financent des programmes destinés aux enfants partout au Canada.
Ah, c'est intéressant ça. Alors, qu'est-ce que cette campagne-là, à quoi ça va servir? On a la chance de parler avec une porte-parole de Poste Canada qui est avec nous au téléphone. Valérie Chartrand est avec nous. Bonjour, Madame Chartrand.
Bonjour.
Madame Chartrand, d'abord, parlez-nous un petit peu de façon très succincte là, de ce que c'est que cette Fondation communautaire de Poste Canada, juste pour qu'on ait une petite idée de l'organisme en tant que tel, là, pour commencer.
Oui, bien, vous l'avez bien introduit. Donc, la Fondation communautaire de Poste Canada, c'est vraiment un bon exemple de comment on s'engage à bâtir un pays plus fort. Donc, on appuie des projets communautaires souvent peu connus, qui améliore la vie des enfants et des jeunes de partout de notre pays. Donc, c'est un moyen pour nous de renforcer les collectivités dans lesquelles on vit et de venir en aide à ces enfants et ces jeunes. Donc, à chaque année, on a notre campagne de financement et puis c'est de cette façon qu'on peut amasser des fonds et puis tous les dollars amassés sont ensuite versés à ces projets.
Vous avez mentionné la campagne annuelle de la Fondation. C'est quoi au juste cette campagne-là cette année?
Oui, donc elle a été lancée officiellement la semaine dernière par l'émission de notre timbre. Un superbe timbre, vous allez le voir. On peut voir un groupe d'animaux à bord d'une montgolfière. Ça vient un peu nous rappeler les rêves ou prendre notre envol. Donc, c'est tout dans l'idée où on veut encourager, inspirer, puis soutenir les jeunes à réaliser leurs rêves. Donc, la campagne de financement est lancée par l'émission du timbre. Et puis, chaque carnet de 10 timbres vendus, 1$ est maintenant versé à la Fondation communautaire. Puis, c'est également durant ce temps où tous ceux et celles qui veulent faire un don à la Fondation peuvent le faire en ligne ou bien à leur bureau de poste. Puis aussi, c'est durant ce temps où certains membres de notre personnel vont aller au-delà des attentes et vont même organiser des activités à leur bureau de poste comme des ventes de pâtisseries, épicerie ou des choses comme ça, encore là, les fonds amassés sont versés à la fondation.
Vous nous avez parlé de ce timbre-là, vous nous l'avez décrit comme très beau, mais on ne l'a pas évidemment à la radio, on ne l'a pas devant les yeux. Qui l'a créé ce timbre-là et qu'est-ce qu'il représente au juste? Vous nous avez parlé d'un groupe d'animaux, lui, je veux croire, là, mais est-ce qu'il y a une symbolique derrière ce timbre-là? Qu'est-ce que ça représente au juste?
Oui, donc le timbre de cette année il a été conçu, puis j'espère que j'ai bien prononcé, mais Siong Jae Peck, donc c'est le designer du timbre. Chaque année, c'est un design différent, avec un différent thème. Cette année, c'est l'image qui a été choisie. Et puis, c'est comme j'ai expliqué, un timbre avec plusieurs animaux. On voit un ours, par exemple, ou une girafe qui sont à bord d'une montgolfière. Puis la signification derrière, c'est vraiment, on veut que les jeunes de notre pays prennent leur envol, réalisent leurs rêves. Donc, encore là, c'est thématique avec la fondation communautaire qui vient soutenir des projets communautaires qui aident les jeunes et les enfants.
C'est vraiment un beau thème, puis moi, je vais vous dire que c'est le raton laveur, mon préféré.
Okay.
Je sais pas, il y a un sourire. Il sourit.
Oui.
Oui, il sourit. Je trouve ça tellement cute. Comment et à quel endroit on peut se procurer ce thème-là?
Vous pouvez vous les procurer en ligne ou bien à votre bureau de poste. Il y a également d'autres produits, donc comme une carte postale. Si vous achetez une carte postale, il y a aussi, dans ce cas-là, 10 cents qui va à la Fondation communautaire. Donc, il y a différents produits, tous les produits de la Fondation communautaire viennent supporter la Fondation. Donc, on peut aller dans notre bureau de poste et puis on va les voir affichés.
Madame Chartrand, dites-moi une chose, je ne sais pas si vous êtes au courant, là, mais pour les gens qui collectionnent des timbres, je cherche le nom, là, j'ai pas les numismates, je pense qu'on dit, ou quelque chose dans le genre. Des fois, c'est important d'avoir un timbre qui est oblitéré, hein, tu sais, qu'il y a le cachet de la poste dessus. Oui. Est-ce que vous savez s'il y a moyen de faire oblitérer le timbre pour qu'il y ait cette espèce de petit cachet que les collectionneurs recherchent ou si on l'achète puis il est vierge, là, si vous me prêtez l'expression?
Oui, donc si vous l'achetez, il va être, comme vous le dites, vierge, donc okay. Il n'est pas annulé, mais on peut se procurer ce qu'on appelle le pli de premier jour officiel. C'est pas un terme qu'on entend souvent, c'est souvent un produit de collection, mais c'est une enveloppe avec le timbre qui est oblitéré, donc c'est un objet de collection. Donc, on peut se le procurer aussi dans notre bureau de poste si on veut avoir cette oblitération.
Ah, voilà. Alors, les collectionneurs de timbres vont être intéressés encore davantage.
Oui, c'est ça. Et Simon, on n'a plus besoin d'écher les timbres en passant.
Non, ça a l'air.
Non, ça a l'air qu'on n'a plus besoin. Y a-t-il d'autres façons d'aider la Fondation pendant cette campagne de financement?
Oui, alors, il y a bien sûr, comme je vous ai parlé, la vente de timbres et de produits reliés à la Fondation communautaire, mais on peut également faire un don à notre bureau de poste du montant de notre choix. On peut également aller en ligne sur le site web de la Fondation communautaire de Poste Canada et faire un don de cette façon-là en ligne. Et puis, notre personnel, il y a des fois où ils vont décider d'organiser des activités à leur bureau de poste, comme une vente de pâtisserie. Donc, lorsque vous voyez une activité qui est organisée, vous pouvez participer également et les fonds iront à la Fondation communautaire.
Puis on n'a pas besoin de faire... oui, on peut faire notre don pendant la campagne annuelle, mais je veux dire, c'est à l'année longue où on peut aider la Fondation.
Oui.
Madame Chartrand, l'entrevue achève sur ces mots-là. Pendant combien de temps, là, on sait que ça vient d'être lancé tout récemment, cette campagne de financement annuel, mais combien de temps ça va s'étirer? Pendant combien de temps, disons, on va avoir la chance de se procurer ce timbre-là?
Oui, dans le fond, le programme a été lancé la semaine dernière par l'émission du timbre. On a reçu des demandes de subvention en février, puis on va communiquer avec les bénéficiaires en juillet. Donc, dans le fond, on a un peu ce temps pour se procurer le timbre. Et puis, par la suite, on va faire l'annonce des grands gagnants, des bénéficiaires de la Fondation.
Ah, OK.
Ah, bien, c'est intéressant. Ouais. Alors, si on veut avoir d'autres informations sur la Fondation communautaire de Poste Canada, est-ce qu'il y a un site web à visiter? De quelle façon on peut se renseigner sur les activités de cette Fondation-là?
Oui, tout simplement sur le site web de la Fondation communautaire de Poste Canada. Donc, si vous y allez, vous allez avoir tous les détails sur la Fondation. Si aussi Maintenant, cette année, ça a été en février, mais si en février prochain, vous avez un petit projet que vous aimeriez voir, si vous pouvez recevoir une subvention, vous pouvez faire la demande de subvention également, vous pouvez voir les critères. Donc, tout ce qui est relié à la Fondation communautaire est sur notre site web.
Okay. Ah, ben wow. C'est vraiment intéressant, ça, les organismes communautaires, par exemple, qui avaient des besoins d'argent, là, un petit peu, pour financer certaines de vos initiatives, ben allez faire un tour là-dessus. J'imagine, Mme Chartrand, qu'en faisant une petite recherche sur Google, on va trouver très facilement Fondation communautaire de Poste Canada, évidemment. Elle est porte-parole de Poste Canada. Elle nous parlait de cette campagne de financement annuel qui vient à peine d'être lancée du côté de la Fondation communautaire de Poste Canada. Un très, très beau timbre, soit dit en passant. Un timbre philanthropique qu'on vous invite à vous procurer dans votre bureau de poste local. Madame Valérie Chartrand, merci beaucoup de votre temps.
Merci beaucoup. Merci d'en parler et de partager le mot.
Peut contenir des infos.
Avant de filer vers la dernière ligne droite, prochain quart d'heure où on va avoir, entre autres,
le quiz,
le fameux quiz, je veux vous mentionner 7 faits insolites sur les tenues vestimentaires de grands chefs d'État.
Oh, que ça risque d'être intéressant.
Je vais vous surprendre. On va commencer avec Abraham Lincoln.
Ah, OK, oui, je vois sa barbe avec son chapeau. Là.
Et son chapeau, oui. Voilà, exactement. Le célèbre président américain portait fréquemment un chapeau haute forme, malgré sa taille imposante. Tu sais combien il mesurait? Hein?
Non.
1,93 m. C'était un très grand homme. Ça fait plus que 6 pieds, 3 pieds dans cet ordre de grandeur-là. Ouais. Alors, son couvre-chef, haute forme, il le gardait quasiment tout le temps, même pendant des réunions importantes à la Maison-Blanche, c'est tout dire. Et pourquoi, selon toi, il appréciait autant porter ce chapeau-là?
Bonne question.
Parce que d'une part, ça lui donnait une certaine prestance.
Ben oui.
Ça, c'est une chose. Mais aussi parce que ça lui permettait de traîner ses discours et ses notes sans encombrer les poches de son veston, cachait
pas
ses affaires. Oui, absolument. Absolument. Winston Churchill, on connaît celui-là, le premier ministre britannique, lui travaillait souvent en pyjama.
Non.
En pyjama, autant au lit qu'à l'extérieur, parce que Churchill disait que le pyjama lui permettait de donner le meilleur de lui-même et qu'il pouvait rester à la fois plus concentré et plus productif.
J'ai comme de la misère à le voir dans un pyjama de Spider-Man.
Pourtant, non, pas de Spider-Man. Mais on le voit des fois sur des photos en pyjama avec un peignoir, là, une robe de chambre. Okay. C'est arrivé des fois même sur des photos, pas on va dire officielles, mais quasiment là. Shinzo Abe. Shinzo Abe, c'est l'ancien premier ministre japonais. Oui. Il a été assassiné en 2022. C'était un grand fan de jeux vidéo. Tellement qu'en 2016, il avait pris part à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Rio et il portait un déguisement de... Tu l'aimes, celui-là? Super Mario.
Pas vrai.
C'était habillé, a fait un cosplay de Super Mario. Il avait profité de la... en même temps...
un premier ministre.
Oui, oui, un premier ministre. C'est ça. Okay. Nox qui se déguise avec du linge de laine, par exemple. Ça fait des scandales, mais lui, c'est habillé en Super Mario. Hein?
Et ça,
alors,
de scandale.
Il avait profité de l'occasion pour promouvoir les prochains Jeux de Tokyo dans un pays, le Japon, évidemment, où le cosplay, on le sait, est évidemment très, très populaire. Gandhi. Est-ce que tu connais Gandhi?
Oui.
Gandhi, hein? Alors, Gandhi, il portait la dhoti. Ça, c'est un vêtement, disons, traditionnel. Alors, le Mahatma Gandhi était vêtu de ce vêtement-là traditionnellement. Ouais. Je veux dire, on le voyait souvent. Mais il n'a pas toujours porté ça, hein? Non, il a commencé ça comme un geste de protestation à un moment donné. Il a décidé, à un moment donné, assez tard dans sa vie, quand même, vie politique, et il a décidé de porter ce vêtement-là. En principe, il ne devait le porter que pour 5 semaines. Comme une espèce de geste de protestation contre le mode de vie occidental qui s'emparait de l'Inde. Et il a dit, je vais faire un coup d'éclat, je vais m'habiller avec la dhoti. Finalement, il restait avec ça. Pendant le restant de ses jours, jusqu'à temps qu'il meure.
Et l'image qu'on a de lui, c'est habillé comme ça.
C'est vêtu, évidemment, de ce vêtement traditionnel. Les broches de Margaret Thatcher.
Les broches de Margaret Thatcher.
Tu as remarqué que Margaret Thatcher avait toujours une broche sur le col de son veston?
Non.
Ouais, ben l'ancienne première ministre, Margaret Thatcher, la dame de fer, était toujours, elle avait toujours une broche sur le col de son veston. Elle disait que ça lui portait chance, entre autres choses. Et il y a eu des ventes aux enchères des broches de Margaret Thatcher qui se sont tenues au cours des dernières années. Et certaines d'entre elles se sont vendues pour plusieurs dizaines de milliers de dollars.
Wow!
C'est vrai, là. Le keffier de Yasser Arafat. Tu connais Yasser Arafat? Hey, bon homme!
Oui, c'est
alors,
ça.
Le défunt dirigeant palestinien Yasser Arafat était rarement vu sans son célèbre keffier. C'est une écharpe à carreaux noir et blanc. C'est devenu le symbole de la cause palestinienne. Et rarement, je dirais même qu'on l'a à peu près jamais vu sans ce vêtement-là au cours de sa carrière politique. Et je vais terminer avec une dernière qui est quand même pas pire. Les montres de Vladimir Poutine. Si vous voyez des photos de Vladimir Poutine avec
j'ai
une montre...
remarqué, là, mais
il y a
je
toujours
vois,
une montre de luxe au poignet. Et c'est devenu, en quelque sorte, une espèce d'objet de, comment je dirais ça, de curiosité pour plusieurs personnes qui, avec la montre qu'ils portent au poignet, essayent de deviner la valeur de la montre, l'origine ou la marque de la montre, et ils essaient de excusez l'expression anglaise, de guesser ou de deviner la fortune de Vladimir Poutine juste en regardant les montres qu'il porte au poignet.
Hey, vous n'avez pas besoin de chercher trop loin. Là. Mettons qu'il y a du cash.
Il y a du cash, c'est ça, résumons. Dans un instant, c'est le quiz qui s'en vient. Restez branchés.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz. Le quiz.
Bon, t'es en forme aujourd'hui?
Je suis très en forme. J'avais pas l'air de ça quand j'ai commencé l'émission tantôt.
Ça a l'air de ça, ça déborde.
Ça déborde? Qu'est-ce qui déborde? Ça déborde par
mon enthousiasme.
Ah, mon enthousiasme.
Oui, c'est ça.
Je fais toujours preuve. En fait, j'essaie de faire preuve d'enthousiasme et de déborder d'enthousiasme. Des fois, j'essaie de pas en mettre partout sur la console et tout ça, mais...
Oui, parce que c'est plate à ramasser.
Ah, t'es de l'enthousiasme, là, ça se passe.
Faut ça tâche.
C'est ça. Faut que tu sortes les lingettes, puis il faut que tu passes la mop à terre. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train de ramasser de l'enthousiasme un petit peu partout.
Bien sûr. La mop. Mop.
Écoute,
c'est des choses qui arrivent, hein?
Ça fait qu'il arrive.
Ben oui. C'est l'heure du quiz, mon cher. Tout ça pour ça, là, finalement, c'est l'heure du quiz.
Oui! Absolument. Bon. Allons-y avec le quiz.
C'est pas un difficile aujourd'hui. Je dois t'admettre que je me suis dit... Oh, la dernière fois, j'ai été un petit peu... J'étais un peu raw.
T'étais un peu raw ou un peu chien, ouais.
Oui, un peu chien, c'est bon.
C'était sur les animaux, là?
Oui, bien, c'est ça, c'était sur les animaux. Okay. Alors, je vais être un petit peu plus gentil aujourd'hui.
OK, alors, quel est le sujet?
C'est un vrai ou faux, par contre.
Ah, bon!
Culture générale.
Parfait. Bon. Sortir mon 25 cents, des fois.
Ah, oui, c'est ça. Le dauphin est un poisson. Vrai ou faux?
Bien, c'est faux, voyons donc.
C'est un mammifère aquatique marin. Vous avez raison. Comme tous les mammifères, ils respirent de l'air.
Oui.
Grâce à ses poumons, et les femelles allaitent leurs petits.
Alors, voilà. Mais c'est impressionnant quand même.
T'avais-tu besoin de...
J'avais pas besoin nécessairement. Oui, non, mais c'est quand même très bien que tu l'expliques pour ceux et celles d'entre nous qui n'ont peut-être pas en tête le comportement du dauphin et sa physionomie, on va dire.
Flipper. Certains pays du monde... n'ont pas d'aéroport.
Hein?
Vrai ou faux?
J'allais dire le Vatican de ne pas avoir d'aéroport à grandeur celle-là, certains, là. Ah oui, je dirais que certains aéroports n'ont effectivement pas. Pas certains aéroports, mais certains pays n'ont pas d'aéroport.
Certains aéroports n'ont pas de pays?
C'est un ou l'autre.
C'est ça. Ben, en fait, mon cher, oui, tu as raison. Mais il y a 5 États. Du monde qui n'ont pas d'aéroport.
Ah oui, 5, hein? Je pensais pas qu'ils
étaient... sont trop petits.
Ah, trop petits, ouais, ben.
C'est le cas de Monaco.
Oui.
Du Vatican, bien sûr. De San Marin. Du Liechtenstein. Et d'Andorre.
OK.
Pour le cas de Monaco, c'est l'aéroport de Nice qui est utilisé pour desservir la principauté.
Quand t'es rendu que t'es pas assez grand, t'as pas assez de territoire pour même aménager une piste d'atterrissage, ne serait-ce que pour... Ça veut dire ce que
c'est
ça veut dire.
Grand.
C'est pas grand. C'est grand comme un mouchoir de poche.
Où il y a beaucoup de... le territoire est très occupé.
Oui, c'est ça.
Ouais. Le mont Olympe existe réellement. Vrai ou faux?
C'est en Grèce,
Rappelle-toi de...
J'imagine que
d'Astérix.
Oui. Je pense que oui. Ouais. C'est en Grèce. En tout cas, de mémoire, je dis ça.
Le mont Olympe existe... Réellement, il fait partie des 24 parcs nationaux de Grèce et culmine à 2917 mètres d'altitude
quand
au
même,
nord
hein.
du pays. Oui, c'est quand même quand même une belle petite montagne, là.
Ouais. Fait que les dieux de l'Olympe étaient grimpés là-dessus, eux autres.
Faut croire.
Ils ne devaient pas descendre souvent chez les mortels, là, je veux dire, à cette hauteur-là. Mais non, mais tu sais, ça fait quand même une bonne marche.
Oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi.
On comprend pourquoi les dieux de l'Olympe...
Mais c'est pas pire de descendre.
C'est de remonter après
c'est
ça.
C'est de remonter.
Tu t'en vas faire l'épicerie en bas.
Ben, c'est ça, c'est de remonter avec tes sacs.
Tu ne reviens pas avec les bras chargés, là.
Non, c'est tannant un peu, là. Napoléon Ier et Napoléon Bonaparte ne sont qu'une seule et même personne. Vrai ou faux? Une bonne, celle-là.
Non, je pense pas que c'est la même personne. Je pense que Napoléon Bonaparte, c'est une affaire, Napoléon Ier. C'est probablement même, je pense, mais c'est quelqu'un de sa famille, j'imagine, je présume.
En 1804, Napoléon Bonaparte se fait sacrer empereur sous le nom de Napoléon Ier.
Ah oui?
Par voie constitutionnelle.
Ah, fait que c'est le même gars.
C'est le même gars.
OK.
Il n'avait pas grandi. Il est encore aussi petit.
C'est un mythe, ça? Tu penses?
Non, il était vraiment pas grand.
Ah oui, hein, c'est vrai, ça?
Oui, non, il était vraiment pas grand.
C'était un grand homme, mais petit.
Mais petit.
C'est petit.
C'était un petit grand homme.
Un petit grand homme.
Un petit grand homme.
Ah, c'est bien dit, ça, OK.
En physique.
Et mes amis.
Je sais que c'était un de tes sujets favoris
à l'école. Ah oui, les sciences, là, à l'école, là, ouais, ça...
Le Kelvin est une unité utilisée pour mesurer la vitesse d'un objet. Vrai ou faux?
Je ne pense pas. Kelvin, je pense que c'est... Est-ce que c'est de la luminosité ou atteint un peu? Ou les degrés Kelvin? Mais c'est certainement pas de la vitesse, en tout cas.
Et tu as raison, parce que le Kelvin permet de mesurer la couleur de la lumière perçue par l'œil humain.
OK.
On l'utilise pour mesurer ce qu'on appelle la température de couleur quand on achète des ampoules électriques, genre, entre 2700 et 650
K. OK, 6500. C'est là que j'avais entendu parler de Kelvin.
Voilà.
OK. Comme Kelvin, là, Kelvin Bakken, là, ou non, Kelvin. C'est Kelvin Parent. C'est pas ça?
Kelvin Bakken. Si au moins ça avait été Bacon, ça aurait été pas pire, mais Bacon.
Tant qu'à le déformer, déformons-le.
Oui, d'accord. Il était un petit peu poussé, mais c'est correct. Un tsunami est un phénomène météorologique. Vrai ou faux?
Un tsunami, oui, c'est probablement... je présume que c'est météorologique. Quoique... Va dire oui, tiens.
Un tsunami est provoqué par un tremblement de terre, généralement sous-marin, qui va créer une grande vague qu'on sait très dangereuse.
Ouais.
Un tsunami n'est donc pas un phénomène météorologique.
OK, fait que c'est pas calculé comme un phénomène météo. C'est pas influencé par l'humeur du temps, mettons.
Absolument pas.
Juste le mouvement des plaques tectoniques qui crée... Arrête de mettre de l'enthousiasme partout.
C'est
là.
Ça. J'ai les mains pleines. L'ananas pousse dans un arbre. Vrai ou faux? Étant donné que ce n'est pas un fruit d'ici.
Je pense pas que ça pousse dans un arbre, un ananas. Je pense que c'est plus une plante ou une affaire comme ça. Là.
Le fruit de l'ananas provient d'une plante appelé ananas comusus.
On peut en planter chez soi, ça a l'air. J'ai déjà entendu dire.
Tu peux en faire pousser à l'intérieur, je pense.
Mais est-ce que tu peux après
à
ça...
À l'extérieur, je pense pas. On n'a pas le climat pour ça. Là.
Il me semble qu'au mois de janvier, tu vas manger de l'ananas un peu glacé.
Oui, c'est la crème glacée aux ananas.
Oui.
Mais ça, ce serait pas pire, par contre.
Un sorbet, tu peux...
Un sorbet à l'ananas.
Tu voudrais développer une sorte d'ananas qui est rustique, là, qui vit bien dans le climat nordique du Canada.
Puis tu récoltes ça quelque part au mois de janvier,
puis tu fais comme un peu comme le... Tu sais, il y a du vin de glace pour le raisin. Ben, là, tu ramasses des ananas, puis tu fais du sorbet aux ananas avec ça.
Tu sais, on cherchait une invention, toi puis moi, l'autre fois, là.
On l'a.
Lave-la.
Ça va prendre quelques années pour la développer, par exemple.
Là. Oui, oui, bien sûr.
Les notions de botanique, là, sont assez...
les miennes aussi.
Limite,
hein?
Mettons.
Oui. Le lait est l'aliment qui contient la plus grande concentration en calcium. Vrai ou faux?
Ça, c'est une bonne question.
Rappelle-toi de ta maman qui te disait « Bois ton lait, c'est important pour les os. »
Mais ça, là, je pense que ça fait partie des légendes ou des mythes. Je ne veux pas faire suer les producteurs laitiers, mais je pense qu'on est pas mal dans le mythe. Tu as
un petit peu raison. Ouais, hein? Parce que le lait... Par contre, il faut dire que le lait, c'est un aliment qui est riche.
Oui.
Le lait de vache contient 120 mg de calcium pour 100 g de lait.
OK.
Cependant, d'autres aliments ont une teneur en calcium beaucoup plus élevée. C'est le cas des sardines.
Ah oui.
Qui contiennent 400 mg de calcium par 100 grammes.
Oui, puis j'aime assez ça, les sardines.
Oui.
Passerait ma vie à manger ça.
Oui, je sais. Ou bien encore des amandes.
Ah, ça
par exemple. Qui en ont 250 mg
par
100 grammes. Oui, non, c'est quand même pas si mal.
Hey, c'est étonnant.
Oui. Moi aussi, je ne pensais pas qu'il y avait autant de...
De calcium dans les amandes.
Calcium dans les amandes, je ne savais pas. Et mais tu sais, ils nous répètent tout le temps de manger des amandes. Ouh. Que c'est bon pour la santé, puis...
Oui, ils répètent ça.
Mais je ne savais pas.
Hein? Qui répète ça? Dr. Doolittle,
tu vois? Non, tu vois ça partout, là. Ouais. Manger des amandes, c'est bon pour la santé.
OK.
Ben, pas des amandes avec ceux que tu achètes, là, qui sont...
Salés, puis fumés, le canet, ça, là. Ouais.
Non, ceux-là, c'est...
Ah, OK.
Mais tu sais, des...
Des vraies amandes, là, OK.
Oui, nature, bon. Là.
OK. On va me mettre à manger davantage des amandes. J'en mange déjà de temps en temps, mais...
Okay. Ah oui?
Ça arrive.
OK. Un clavecin...
Oui.
...est un instrument de musique à cordes pincées proche de la harpe. Vrai ou faux?
C'est faux. C'est comme une espèce de piano. C'est des cordes... Ding, 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 ding. Des cordes frappées, ça, c'est... Ben, je pense, en tout cas.
Le clavecin... est bien un instrument à cordes pincées.
Ah oui, hein? Ah ouais.
Mais t'as raison. Proche du piano et non de la harpe.
De la harpe, OK, oui.
Il est devenu de moins en moins populaire face au succès grandissant.
Du piano.
Du piano!
OK, fait que le grand frère l'a emporté finalement. Ils ont lutté puis il s'est fait terrasser.
C'est ça, exactement. Il est un petit peu plus pesant. Marco Polo, dernière question.
Oui.
Marco Polo, du livre Le livre de Marco Polo.
OK.
A réellement existé. C'est vrai ou c'est faux?
Marco Polo. Là, tu ne parles pas du gars de la piscine, là.
Non.
Non, mais tu as déjà entendu Marco Polo dans
le... Oui, le gars de la piscine.
Le gars de la piscine, oui. C'est ça. Marco Polo. Moi, d'après moi, je pense que oui. Je pense qu'il était un explorateur. Je pense qu'il existait Marco Polo. D'après moi, c'est oui. C'est un vrai gars, ça.
Et vous avez raison.
Ah oui, hein?
Oui. Il a existé de 1254 à 1324. C'était un marchand, mais surtout célèbre pour son voyage en Chine.
Ah, OK, ouais.
Qu'il raconte.
Oui, le fameux.
Dans voilà. Son livre.
OK.
Et voilà.
Marco Polo, c'est un vrai personnage et c'est pas juste un jeu. Là,
non, c'est pas un jeu, c'est pas...
Alors, quand vous serez dans la piscine cet été et qu'on criera Marco Polo, je dirais que c'est effectivement... C'est un gars qui est assez célèbre pour avoir son nom dans un jeu.
C'est ça. C'est plus ça.
Wow, ça a été une finale.
Jouer au polo. Oui, effectivement.
Ça a été une finale.
Oui, enthousiasmante.
Exact. On souhaite de passer une bonne semaine.
Oui. Passez une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine.